Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 22 avril 2013 avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Rubrique internationale tout d'abord, bien sûr. Par quoi ouvrir ? As-tu une idée, Robert, de sujet pour cette ouverture de Canu Info ?
Peut-être, comme Michel est là, profiter de sa présence pour qu'il évoque l'avancée du dossier serbe
l'accord de rapprochement serbe-Kosovo.
La qui subsiste par rapport au Kosovo que l'on voudrait absolument séparer de la Serbie.
Oui, donc un accord de rapprochement aurait été signé aujourd'hui, donc tout ça dans la perspective d'une intégration de la Serbie dans l'Union européenne en 2020. Un accord de rapprochement qui, comme on peut bien s'y attendre, ne fait pas que des heureux, puisqu'il y a eu trois manifestations différentes, entre autres celle, bien sûr, des Serbes du Kosovo qui ne veulent pas de cet accord. Je ne sais pas exactement d'ailleurs ce qu'il y a dedans, mais peut-être Michel va nous en dire un peu plus.
Dans cet accord, oui, l'accord entre le Premier ministre Ivica Dačić et Hašim Tači, donc. Président du Kosovo, nous avons un accord en gros, enfin, les pourparlers entre Albanais, Kosovars et gouvernement serbe ont commencé il y a déjà quelques années sous l'égide de l'Union européenne, sous l'égide de Catherine Ashton, et notamment pour des raisons pratiques, pour un peu réguler la vie de la minorité serbe au Kosovo, et notamment dans la région où elle est majoritaire, à savoir le nord du Kosovo, la région du nord de Kosovska Mitrovica. Et au départ, donc, c'est pour parler en vue de trouver un accord, devait donc juste rester d'ordre technique, si j'ose dire, et petit à petit, donc, l'Union européenne l'a emmené vers une forme de, sans le dire, de reconnaissance mutuelle. Alors, la ligne à ne pas dépasser pour le gouvernement serbe, c'était surtout ne pas reconnaître la souveraineté de cet État qui est le Kosovo, reconnu aujourd'hui par 96 pays membres des Nations Unies. Mais dans le même temps, en reconnaissant comme partenaire les représentants d'un gouvernement qu'on ne reconnaît pas, de fait, implicitement, on reconnaît partiellement, du moins en partie, hein, sur le fond, l'existence même donc de cette entité. C'était toute la difficulté. Donc la position des Serbes du nord du Kosovo qui manifeste, d'un, c'est que c'est le gouvernement de Belgrade qui prend la décision à leur place. Ils ne veulent pas, de fait, même si on leur parle d'un semblant d'autonomie, donc d'autogestion dans le nord de la province, ils ne veulent pas faire partie du Kosovo. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, hein, concrètement, il faut savoir que les Serbes du nord du Kosovo sont régis en sous-main par Belgrade. C'est-à-dire, tous les fonctionnaires sont payés par Belgrade, pas par Pristina, qu'ils considèrent donc la présence de la police et des forces de l'ELEX et, comme une présence de forces occupantes, que les policiers albano-kosovars ne sont pas déployés dans le nord de la province, et que cet accord donc va remettre en cause un peu ce statu quo. D'où la difficulté. Pour l'instant, la difficulté pour la classe politique serbe, quand je dis la classe politique, c'est pas seulement le gouvernement nationaliste de Nikolic, du président serbe, gouvernement de coalition, avec Ivica Dačić, qui a noté qu'il était un proche de Milošević, hein, donc vous voyez comme le chemin a été parcouru. C'est l'accord global de toute la classe politique, hein, donc opposition compris, qui finalement a donné son aval donc à ce qui a été signé à Bruxelles entre représentants donc albanais, kosovars et serbes. Le souci pour les Serbes dans leur ensemble, c'est que l'Église orthodoxe serbe, qui pèse quand même et qui est d'un conservatisme, enfin sans pareil, pour ceux qui connaissent un peu le mode opératoire des églises autocéphales orthodoxes. L'église est contre, et l'a clairement dit, et les principaux intéressés, à savoir les Serbes du nord, donc du Kosovo, sont contre et l'ont montré aujourd'hui en manifestant. Aujourd'hui, l'église demande à ce que l'État, sur cette question-là, organise un référendum.
Qui est pour les affairistes qui veulent faire prospérer la Serbie dans le cadre des échanges européens?
Bien entendu, c'est-à-dire que, il faut comprendre qui est pour. Il y a aussi la population qui, il faut comprendre un peu l'état dans lequel se trouve la Serbie aujourd'hui, à savoir les affairistes prospèrent, bon an mal an, depuis la fin du régime Milošević, même avant, il y avait ces affairistes, puis finalement, ont mué, mais sont toujours finalement à la tête de cet état. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la position dans laquelle se trouve la Serbie, elle est sur le chemin bon an mal an de l'intégration, et ne pas oublier que cette intégration dans l'Union européenne, elle émane des élites, des nouvelles élites serbes, pour des raisons bassement financières, mais aussi de l'Union européenne qui a besoin effectivement d'une intégration totale de cet espace économique. Elle veut pas un trou noir au plein milieu de ce territoire qui part quand même du Finistère jusqu'à Chypre. Mais en gros, la population pense, en se référant à certains modèles quand même, le modèle notamment espagnol, peut-être à tort, que les fonds européens peuvent apporter et relancer l'économie. Or, aujourd'hui, on voit bien que, mis à part quelques pays, ces fonds européens, on le voit par exemple pour nos voisins hongrois, n'ont pas permis réellement d'investir dans les infrastructures et de relancer le pays. Par exemple, la situation des classes populaires hongroises ne s'est pas améliorée ces 10 dernières années. Donc il y a le fait, il y a une forme de la part de la population, pour certains d'entre eux, puisqu'on a tout connu, on a connu la guerre, on a connu l'embargo, on a connu cette situation où on est toujours de facto un peu sous embargo, puisque un pays anciennement membre de la Fédération yougoslave, la Slovénie, a intégré l'Union européenne, un autre s'apprête à le faire, à savoir au 1er juillet la Croatie, et que de fait la Macédonie, le Monténégro ont fait leur demande d'adhésion, que la Bosnie aussi, mais pour le cas de la Bosnie c'est un peu un cas épineux, et qu'à terme tout le monde va l'intégrer. Donc voilà, c'est un peu ce courant-là qui prédomine. Surtout ne pas se retrouver isolé sur la scène politique des Balkans occidentaux. Donc il y a ce rouleau compresseur de l'intégration européenne qui s'est mis en place, mais sans pour autant faire bander quoi la population. C'est pas par conviction européenne que les gens s'apprêtent donc à rentrer, et ce problème donc d'une partie de son territoire, à savoir le Kosovo, qu'on ne reconnaît pas donc comme souverain, je parle pour les Serbes, et d'où cette position. Donc il était clair que pour l'Union européenne, c'était une manière d'amadouer donc les classes politiques serbes, de leur faire miroiter donc cette carotte de l'intégration, si partiellement, bien sûr, on leur a pas demandé explicitement de reconnaître la souveraineté du Kosovo, mais personne n'est dupe. C'est un long chemin qui se prépare en vue de l'intégration, avec premier pas, en commençant donc déjà à parler avec les responsables d'un État qu'on ne reconnaît pas. De fait, de facto, on reconnaît cet État. Et à terme, je pense que pour les Serbes, si vraiment ils veulent intégrer l'Union européenne, ça passera inévitablement par la reconnaissance du Kosovo. Juste à noter que sur les 27 pays membres, 5 encore ne l'ont pas reconnu, à savoir l'Espagne, Chypre, Grèce, Roumanie et Slovaquie.
Ils sont combien ? Une quarantaine de mille, non, les Serbes du Kosovo ?
Il en reste. Il y en avait donc avant le conflit 200 et quelques mille. Il en reste 85 000, donc 40 000 dans la région qui est relativement homogène du nord de la région de Mitrovica.
Qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir qu'ils se déplacent ou...
C'est-à-dire que là, on est dans une forme de lobbying hein, de la part de ces Serbes du Kosovo. Contrairement aux autres Serbes qui vivent dans des enclaves et qui n'ont pas les moyens donc, de se regrouper et sont en position de faiblesse vis-à-vis du gouvernement kosovar de Pristina, où de fait ils ont accepté leur statut de minorité. Oui. Les Serbes du nord du Kosovo ne se réclament pas du tout comme une minorité, mais comme donc partie intégrante de la Serbie. Donc, ils considèrent qu'ils sont au jour d'aujourd'hui toujours en Serbie. Et comme je le disais, le rectorat qui a cours, c'est celui de Belgrade, et les enseignants, les professeurs sont payés par Belgrade, mais pas par Pristina. Donc, c'est un refus pour l'instant. Depuis l'indépendance. L'autoproclamation de l'indépendance du Kosovo, c'est un refus des institutions donc de Pristina.
Je crois me souvenir qu'il y a des raisons historiques et notamment du point de vue religieux qui amènent les Serbes, quels qu'ils soient, à penser, du moins parmi la catégorie peut-être la plus traditionnelle des peuples serbes et kosovars et enfin serbes de l'intérieur ou de la frontière, ça peut pas être autrement que vraiment le Kosovo, c'est l'histoire de la Serbie, enfin de la religion orthodoxe.
Oui, enfin, serbe, serbe, ça veut dire chrétien orthodoxe.
Oui.
Et les choses, les Serbes se refèrent donc à l'état médiéval, donc la Serbie médiévale, son centre névralgique, c'était Prizren, c'était le Kosovo. Donc, le patriarcat se trouve toujours au Kosovo. Donc, c'est un peu cette aberration. Le patriarcat de l'église orthodoxe serbe se retrouve au Kosovo, à Peć. Donc, on ne se coupe pas comme ça de ses racines. Alors, en même temps, il y a la réalité du terrain. La population aujourd'hui est très largement majoritaire. Elle est albanaise, musulmane. On va dire 90% de la population albanaise, enfin, du moins albanaise au Kosovo, parce que c'est une population albanaise. On peut parler de terme kosovar, mais c'est une construction. C'est comme si aujourd'hui on parlait de peuple francilien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aucune construction réelle. Avant tout, donc, les Albanais, qui se reconnaissent comme Albanais, hein, sont musulmans. Il y a une petite minorité catholique et une petite minorité orthodoxe chez cette population albanaise, mais en très grande majorité, donc, qui sont musulmans. Donc, effectivement, il y a ce fossé communautaire, religieux et linguistique entre ces communautés qui, pourtant, vivent sur ce même territoire depuis des siècles, mais où la démographie s'est inversée ces 100 dernières années. Et donc aujourd'hui,
les rapports entre le Kosovo et l'Albanie se sont développés en contrepartie de cette situation, comme c'était souvent évoqué lorsqu'on évoquait par exemple la grande Albanie.
Oui, alors concrètement, oui, on parlait de Grande Albanie. Bon, la Grande Albanie, c'est un des promoteurs de la Grande Albanie, c'était le père de Mère Teresa. Mère Teresa qui, justement, elle était catholique, albanaise, née en Macédoine, mais qui connaît bien un peu ce courant-là. Donc, c'était de nouveau mettre en place l'Albanie, quels que soient les courants religieux des Albanais, qu'ils soient orthodoxes, pour une petite minorité orthodoxe, catholiques, comme Mère Teresa, ou très grande majoritairement musulmans. Aujourd'hui, concrètement, depuis que le Kosovo s'est autoproclamé indépendant, le fer de lance, donc, un peu de l'intégration pan-albanaise, entre donc l'Albanie souveraine et indépendante, Kosovo, donc un état albanais de fait, hein, plus de 95-96% de la population est albanaise, hein, au Kosovo. Plus de 90% de ces Albanais du Kosovo sont musulmans. Et donc, de fait, le fait marqueur, c'est la construction de l'autoroute entre Pristina, capitale du Kosovo, et Durrës, donc le grand port maritime albanais. Ça paraît rien comme ça, mais pour ceux qui connaissent un peu la région, qui connaissent un peu la topographie, c'est un pays de montagne qu'il faut traverser hein, pour se rendre de Pristina à Tirana. Ça en dit long jusqu'à présent. Les voies, si j'ose dire, naturelles d'approvisionnement ou d'accès se faisaient plutôt par le nord, donc par la vallée de la Morava, donc en direction de Belgrade. Avoir forcé donc et construire cette autoroute qui n'est pas rentable, hein, et coûte que coûte, ça en dit long sur l'intégration pan-albanaise, c'est-à-dire voilà, demain on va développer bien sûr ce grand espace économique albanais, que ce soit entre la Macédoine occidentale, peuplée majoritairement d'Albanais, entre l'Albanie et le Kosovo, et pourquoi pas aussi le Monténégro ou les régions frontalières aussi, une minorité albanaise importante. Mais voilà, concrètement aujourd'hui ça se passe comme ça, enfin ça ne trompe personne pour ceux qui ont suivi un peu les dernières manifestations, et notamment les manifestations étudiantes à Pristina, autodétermination, hein, sous l'acronyme autodétermination, on verra effectivement qu'il y a, il y a le drapeau national albanais qui flotte, hein, le drapeau rouge à aigle bicéphale, c'est le même qui flotte à Tirana, c'est pas le drapeau nouvellement créé où on voit le contour du Kosovo avec ses 5 étoiles représentant officiellement ses 5 minorités. Ça, tout le monde est conscient donc au Kosovo qu'on est minoritaire, que ce drapeau a été créé de toutes pièces par la communauté internationale pour accréditer dans un semblant d'idée effectivement d'État ou de nation kosovare. Donc non, le Kosovo, c'est le véhicule de l'intégration du peuple albanais, c'est une intégration qu'on prépare, et notamment, comme je disais, de manière concrète déjà, par l'intégration territoriale avec la création d'autoroutes, d'infrastructures.
Mais qui finance sûrement des capitaux internationaux, de l'immigration et au-delà sans doute.
Oui, mais aussi fonds de crédit, en l'occurrence le fonds de crédit, l'Union européenne pour partie en Albanie aussi, mais aussi américain, puisque c'est par exemple c'est un fonds turco-américain qui a financé cette autoroute. On voit bien aussi, pour ceux qui s'intéressent un peu aux questions géopolitiques, il y a toute une série de tracés de corridors qu'on met en place, et notamment cette liaison Durrës Pristina devrait par la suite s'étendre vers donc une autoroute vers Pristina Skopje, et Skopje direction Mer Noire, donc direction Varna par Sofia. Donc ça, c'est un couloir possible donc de flux de marchandises. Et effectivement, il y a l'Union européenne qui a des intérêts à mettre en place ce flux. Il y a aussi la Turquie qui, ne l'oublions pas, hein, la Turquie qui est l'homme un peu en bonne santé de la région, une croissance économique de l'ordre de 5-6% par an, déjà depuis maintenant une petite décennie, et un pays démographiquement puissant, et puis des volontés là aussi de se référer à son histoire, donc à l'Empire ottoman, et de retrouver, mais je vais dire en forme de soft power, comme on dit, hein, pas de manière arrogante, mais de se retrouver de nouveau en position un peu dominante sur la région. On le voit bien, notamment dans le cadre des échanges. Donc oui, la Turquie a une tendance à favoriser donc les échanges de tout point de vue, culturel, économique, en termes d'idées politiques, avec d'anciens États, notamment, qui sont de même confession qu'elle. Donc si on peut favoriser des échanges accrus entre l'Albanie et le Kosovo, qui sont, comme je l'ai dit, musulmanes, c'est une bonne chose donc pour la géopolitique turque.
Voilà, on va peut-être passer à un autre sujet, parce qu'on a fait un grand développement, on y viendra forcément, hein, l'histoire n'est pas finie, comme vous l'avez bien compris. Alors, John Kerry est en tournée au Moyen-Orient avec son pote Schottegel, et bien, ils font leur marché, et ils arrivent les bras pleins d'armements divers et variés, et figurez-vous qu'ils vont alimenter 3 alliés. Tenez-vous bien, Israël, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. trois puissances qui vont donc être équipées les uns de F-16 pour les Émirats Arabes Unis, de missiles US, et puis toute une panoplie d'armements pour les Israéliens, tout ça contre un ennemi commun à tout ce joli monde qui est bien sûr l'Iran. Le marché devrait représenter 10 milliards de dollars, donc ça vaut bien le coup de faire un voyage et de passer quelques jours pour discuter les contrats et les signer. Ça peut appeler aussi quelques réflexions géopolitiques plus profondes.
ça fait partie du grand jeu actuellement de Moyen-Orient, c'est-à-dire reconfiguration du monde arabo-musulman sur toute la région. On le voit depuis les campagnes de Bush père et fils. On voit bien que d'un côté, c'est isoler l'Iran, qui est la puissance de la région, puissance politique, démographique et économique si elle continue à prospérer. Donc à tout prix isoler ce pays dès lors qu'il n'accepte pas le jeu des Occidentaux. Et pour ce faire, effectivement, il faut auprès de nos partenaires, si j'ose dire, hein, les États clients que sont les Émirats Arabes Unis, Koweït ou l'Arabie Saoudite, surtout pour les États-Unis, il faut maintenir donc cette peur du voisin iranien. Il faut cliver, hein, en disant effectivement que on ne peut rien tirer de bon des chiites dans leur ensemble, et on le voit bien, hein, l'isolement des Iraniens et des chiites se fait aussi sur le terrain au Liban avec le Hezbollah, ou en Syrie en isolant les Alaouites, ou en Irak en maintenant l'état de guerre civile, car on a instauré, n'oublions pas qu'aujourd'hui ces attentats en répétition en Irak sont le fruit aussi de la politique occidentale, et tout porte à croire effectivement que en faisant un grand tour pour vendre ses armes, et bon, avec l'Israël, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, on tend aussi à une forme de préparation donc à une guerre avec l'Iran, parce que en bout de compte, d'un point de vue géopolitique, il faut, si l'Iran donc ne se convertit pas à nos aspirations, à nous occidentaux, si ça ne devient pas elle aussi un État client comme l'est actuellement l'Arabie Saoudite, eh bien, il va falloir lui faire payer au prix fort, donc par les armes. Donc, ça procède un peu de cette logique-là. Oui.
Ouais. Robert, là-dessus ou sur un autre sujet, tu veux ?
Non, tout à côté, parce que finalement, hein, comme Michel l'explique, c'est-à-dire que cette configuration du Moyen-Orient nouveau, c'est les Bush qui l'ont inventé, et puis visiblement, Obama continue dans la même voie, en donnant l'impression que finalement, il veut néanmoins être moins guerrier que ses prédécesseurs, et avoir une politique plus subtile des rapports de force. Et on le voit aussi par rapport à la Syrie, où la Syrie sont très ennuyés par le dossier syrien, parce que ou bien il peut basculer dans quelque chose d'incontrôlable, et les Américains ont connu ça, de l'Afghanistan, puis ensuite en Irak encore aujourd'hui, ou bien effectivement trouver un compromis politique et permettre à Bachar de rester au pouvoir au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ceci les conduit finalement à n'avoir que des propositions très 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 en deçà de ce qu'ils prétendent vouloir faire, c'est-à-dire faire partir Bachar Assad. Et cette politique, effectivement, elle se poursuit. Elle amène aujourd'hui la coalition péniblement bâtie, avec d'ailleurs l'homme des Américains, Khatib, et qui dit, moi, je peux pas continuer dans les conditions dans lesquelles on m'a filé le bébé, et donc je me retire. Alors, trouvez-en un autre pour mener la politique, et puis d'abord, quelle politique vous voulez mener. On a bien compris que finalement, Vous vous appuyez naturellement sur les Émirats, sur l'Arabie Saoudite, mais il faut savoir qu'effectivement, ces pays aujourd'hui sont aussi traversés par le débat interne à l'islam.
Oui, juste pour préciser, donc, comme tu l'évoquais, Ahmed Al-Khatib donc, a de nouveau redémissionné. On se souvient, il y a quelques semaines, démissionné, il est revenu à son poste un peu contraint et forcé. Et donc aujourd'hui, on apprend que Georges Sabra donc, a été nommé président par intérim du Conseil national syrien. Alors là aussi, Georges Sabra, c'est un chrétien quand même, hein, il fait partie de la minorité chrétienne syrienne. C'est bien, enfin, je ne sais pas c'est qui a eu l'idée de nommer un chrétien à ce poste-là, mais il est clair que ça ne va peut-être pas favoriser non plus la cohésion entre différents mouvements d'opposition à Bachar Assad, notamment à la partie donc, la plus islamiste, hein, Al-Nusra et consorts, quoi, qui se réclament d'Al-Qaïda et qui considèrent effectivement toutes ces minorités religieuses comme des minorités qui, au mieux, on doit tolérer, mais certainement pas comme des partenaires à part entière. Donc ça n'augure pas grand chose de bien, notamment pour la minorité chrétienne syrienne, dans un contexte surtout où on voit que les choses se radicalisent. Hein. Cette semaine, les combats ont eu lieu à la frontière entre Syrie et Liban, et pour partie des deux côtés de la frontière, et ont impliqué le Hezbollah, qui de manière conjointe avec les forces syriennes de Bachar al-Assad sont attaqués à des positions sud, ce qui est une nouveauté. Donc là aussi, les risques donc de contagion à une guerre civile inter-libanaise sont de plus en plus grandes. Dans le même temps, les Jordaniens aussi ne s'en cachent pas, parce que les islamistes prospèrent et passent allègrement de Jordanie en Syrie, dans le sud du pays. Ils ont aussi autorisé le survol de drones israéliens donc sur la région en traversant leur territoire. Donc on voit bien là aussi petit à petit donc une forme d'internationalisation de ce conflit-là. Et la logique de reconquête notamment de la région de Homs par le gouvernement syrien conjointement avec le Hezbollah répond aussi à cette logique de continuation donc entre le pays dit alaouite dans la région côtière et montagneuse de la région de Latakia et entre Damas. Donc de nouveau, on voit bien que peut-être le régime de Bachar al-Assad se prépare à une scission de facto syrienne, et en maintenant donc une zone centrale qui irait de Damas jusqu'à la mer Méditerranée, en passant donc par la plaine de la Beka contrôlée au Liban par le Hezbollah, et en maintenant donc une forme de cohésion, si j'ose dire, territoriale au détriment donc de la majorité sunnite qui forme le gros des insurgés.
Et pendant ce temps-là, les Européens qui manquent pas d'optimisme, qui rêvent un peu, se réunissaient au Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères, pour décider d'une levée d'embargo sur le pétrole syrien. Bon, c'est un vœu pieux, c'est sympa, mais on voit pas bien comment ils vont faire, parce qu'ils n'ont pas accès aux pipelines dont ils auraient besoin. Alors si c'est avec des camions, ça va pas aller bien loin. En plus, qu'ils risquent de se faire mitrailler, leur camion. C'est une opération de quel ordre, ça? Alors, l'objectif, effectivement, c'est d'annoncer des possibilités de rentrée d'une manne financière
pour le Conseil national syrien.
Le Conseil national syrien, mais ça ne va pas fonctionner.
Tout à fait, et d'autant plus qu'on apprend effectivement que pour certains puits de pétrole, ils sont contrôlés directement, par exemple, par les insurgés d'Al-Nusra qui se réclament directement d'Al-Qaïda. Donc on voit bien à qui va venir cet argent, à qui profite cet argent. Enfin, les choses sont tout sauf clair sur ces prises d'opposition, comme sur celle effectivement de la Grande-Bretagne, la France, sur la livraison d'armes. Autant, comme disait un éditorialiste, autant livrer directement les armes à certains de nos concitoyens qui, au nom de leurs convictions religieuses, vont partir en Syrie pour combattre le régime impie d'Assad. Donc on tourne leur donner des armes directement. Enfin, c'est du grand guignol. Enfin, la nouveauté quand même pour ceux qui suivent un peu qui font des revues de presse ces dernières semaines, c'est que ça y est, nos médias dominants sont passés par le terme guerre civile. Ça y est, au bout de 2 ans de conflit, on commence à parler de guerre civile. Ils ont pris conscience, effectivement, qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, c'est plus, effectivement, qu'un combat purement politique entre une opposition opprimée et un régime dictatorial, celui de Bachar el-Assad, que ça recouvre des réalités beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes.
Voilà, Robert, un autre sujet avant qu'on abandonne la rubrique internationale. On ne traitera pas tout. Là, il y a Napolitano, il y a les pseudo-attentats américains, qu'est-ce que tu avais d'autre encore dont tu avais envie
non,
de parler?
On peut dire un mot peut-être du dénouement à l'italienne. Pour un poste quasi honorifique qui est celui de la présidence de la République en Italie. D'ailleurs, on aimerait que peut-être en France le poste de président de la République soit un peu plus honorifique qu'il ne l'est, mais bon, c'est pas le cas. On est peut-être là aux deux extrémités.
T'es encore un partisan de la 6e République, toi, je sais.
Par exemple, ça pourrait être ça, oui. Alors, cette bataille entre les anciens communistes, ma foi, elle a tourné à match nul, puisque l'ancien communiste Napolitano est réélu, bien que ça n'était pas prévu du tout dans la Constitution, ni même dans son désir à lui, à 87 ans, et qu'un autre communiste qui était, lui, beaucoup plus représentatif de la gauche, comme le prédécesseur, issu du Parti communiste et ayant participé à la création du Parti démocratique, c'est Rodotà, monsieur Rodotà, qui lui a été présenté, bon, c'est plus un homme, comme on dit, de la société civile, mais politiquement très engagé, qui était présenté par le mouvement 5 étoiles, donc le mouvement qui a provoqué la situation aujourd'hui en Italie, et qui avait, au cours de cette présentation comme possible président, recueilli des voix du Parti démocrate dissidente, qui estimait que ce Rodotà était beaucoup plus représentatif de la majorité issue des dernières élections que ne pouvait l'être surtout Prodi, que le Parti démocratique avait relancé. Bon, c'était vraiment le retour à l'expérience échouée du centre-gauche italien. Donc tout ça conduit à un émiettement encore plus grave de la gauche italienne, gauche extrême-gauche, petite extrême-gauche très minoritaire qui pratiquement n'arrive plus à jouer un rôle dans tout ceci, puisque beaucoup de ses membres se sont plutôt regroupés autour du mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui, Napolitano va devoir se choisir un président du Conseil. Alors, ça va être un président du Conseil. On craint qu'il reconduise, faute de pouvoir faire autre chose, Monti. Monti, donc, la droite, grand défenseur, effectivement, de l'austérité, comme il l'a pratiqué depuis qu'il était au pouvoir en Italie, au nom de ses capacités d'expert économique, et donc prolonger la politique de l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire de l'austérité, autrement dit, une situation encore plus dégradée qu'elle ne l'était il y a quelques semaines en Italie.
Oui, avec un avantage pour Berlusconi, c'est que Napolitano ne lui fera pas de misère, quoi.
Hein, oui.
C'est un peu une des données aussi de cette élection, quoi.
Voilà, de ce fait, Bergani a démissionné, donc le Parti démocrate n'a même plus de responsable en titre. Il va falloir qu'il s'en donne de nouveau en attendant un congrès peut-être extraordinaire.
Allez, il est -20, une courte pause musicale avec Michel Bernard, les temps sont durs et on se retrouve pour la rubrique nationale.
J'ai peur, j'ai la trouille, j'ai les foies, j'ai les boules, la pétoche.
La pétoche.
La liste est trop longue, on nous bousille le monde, tout qui cloche.
Tout qui cloche.
Pourri l'atmosphère, plus d'été, plus d'hiver, marée noire. Barbu enragé, prince avide de paix, trop dollars. Mais où est donc le capitaine du navire? Les moussaillons boivent le bouillon, ça tourne, ça vire, personne ne sait plus naviguer. Tous nos filets sont emmêlés, et les petits poissons font la gueule. Les voiles après à s'accrocher à l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture. Y'a quoi à dire? Les dents sont dures.
Ah, les dents sont dures. Ah, les dents sont dures, dures.
Quand ça pisse le sang, j'essuie mon petit écran plein de barbac.
Plein de barbac.
Quand ça crève de faim, je flippe et j'y peux rien. Faut que je zappe.
Faut que je zappe.
Les filles à fond de cale, il paraît que c'est un mal. La lettre. Font la gueule.
Ah.
Les voiles après à s'accrocher à l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture. Que quoi dire? Les dents sont dures.
Ah. Les dents sont dures. Ah. Les dents sont dures, dures.
Moi je fais le gros dos, perdu dans ce chaos, je me rassure.
Je me rassure.
Je mords avec rage dans mon petit bout de fromage, tant qu'il dure.
Tant qu'il dure.
Il y a plein d'étrangers qui piqueraient bien les clés de ma maison. Chez moi comme chez eux, il y a plus d'amour heureux, plus saison. Mais où est donc le capitaine du navire? Les moussaillons boivent le bouillon, ça tourne, ça vire, personne ne sait plus naviguer. Tous nos filets sont emmêlés et les petits poissons font la gueule. À l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture, y'a pas à dire, les dents sont dures. Les voiles prêts à s'accrocher à l'œil de verre et au délire du premier capitaine Crochet qui pue la haine et la friture, y'a pas à dire, les dents sont dures. Y'a pas à dire, les dents sont dures.
Voilà, Michel Bernard qui commentait pour nous l'actualité, elle aussi nationale, dans le cadre de ce Canu Info du 22 avril 2013, avec une rubrique politique. Peut-être, Robert, tu veux dire quelque chose des tensions et qui traversent la gauche, des socialistes plus précisément, sans compter que Mélenchon veut être Premier ministre et elle veut pas que ça traîne.
Oui, oui, c'est extraordinaire. Chaque fois qu'il plaisante sur ce sujet-là, alors il est massivement repris par la presse qui pense que effectivement ça va mettre le désordre chez les socialistes ou à la gauche des socialistes, au front de gauche. Mais bon, la presse se rend pas compte que Mélenchon il sait aussi jouer avec les journalistes, même s'il donne toujours l'impression de se fâcher avec eux. Mais bon, alors effectivement ce que tu dis, bien la résultante de la conjoncture au bout d'un an d'exercice du pouvoir, et eh bien il faut faire le bilan, et le bilan il est plutôt pas très sympathique.
Oui, et
pour
puis,
tous ceux qui croyaient que des réformes essentielles importantes allaient être engagées, aussi bien sur le pouvoir d'achat, sur la défense de l'emploi, sur peut-être la possibilité des travailleurs de contrôler leur outil de production, ne serait-ce qu'à travers la promesse des coopératives ouvrières, des promesses de reprise à travers des nationalisations, même provisoires, partout où il se produisait effectivement des situations où on s'apprêtait à fermer les entreprises, c'est-à-dire des plans sociaux, opposés aux plans sociaux.
Ouais. Aujourd'hui, on en est à ce qu'il y a une branche des députés socialistes qui demande une réorientation de la politique. Quoi. Il y a un petit clivage là au sein du PS, le gouvernement. Quoi.
Mais en fait, cette position, elle n'est pas nouvelle. Et puis, elle est très modérée parce que leur image de marque, c'est de renvoyer à Roosevelt et donc au New Deal rooseveltien. Bon, c'est bien d'y penser déjà, mais c'est pas avec ça qu'ils vont effrayer la majorité des socialistes au pouvoir. Hollande et Rowe ne vont pas être effrayés par cette référence à Roosevelt. Donc c'est une gauche qui s'appelle maintenant la gauche. Hein, on connaît certains de ses représentantes, ses représentantes. On a vu, et c'est quelqu'un qui est formidable. Moi, et puis peut-être à Lyon, vous l'avez vu aussi. Il passe tous les jours. Il anime des débats, auxquels viennent les socialistes. C'est Gérard Filoche, l'ancien inspecteur du travail qui est à la retraite maintenant et qui mène un combat résolu contre ce dont on va parler peut-être tout à l'heure rapidement, de l'accord national interprofessionnel qui devrait trouver son aboutissement, on va mettre aboutissement entre guillemets, cette semaine également, par un vote majoritaire. Donc ces socialistes, effectivement, bien, ils rejoignent, mais ce qu'ils constatent, c'est que finalement, ils n'ont même plus de représentants au gouvernement, parce qu'aussi bien Montebourg en dehors de Montebourg, il n'y avait pas grand monde en tant que socialiste. Hein, il y avait du flot, mais c'était plus par rapport au Vert et au Vert Europe qui menait une bataille sur la gauche à l'intérieur de ce gouvernement. Mais il semble bien que Montebourg est complètement usé. Et que certains le disent sur le départ, c'est pas dans son tempérament, hein, parce que s'il part maintenant et qu'il n'y a pas d'alternative au PS, il va entrer dans un grand tunnel tout noir et où il peut rester longtemps. Et c'est pas du tout ce qu'il souhaite, Montebourg. Il souhaite poursuivre une carrière politique plutôt à un niveau assez élevé. Voilà, donc effectivement, un PS d'ailleurs qui, à l'heure où on parle, je ne sais pas si c'est fini, ils sont réunis ensemble, sorte de huis clos, avec Hérault, et Hérault essaye de les réconforter, de les rassurer, de leur dire, mais non, vous n'êtes pas simplement des godillots ou des bénis oui-oui, je vous écoute, mais vous savez, les temps sont durs, et je ne peux pas faire autrement. Comprenez-le. Et quand Hérault veut prendre son air de sincérité, alors là, il est irrésistible, il est redoutable.
Tout le monde pleure, quoi.
Voilà un peu ce qu'on peut dire du PS. C'est pas se moquer, c'est finalement faire l'état des lieux.
Voilà, on va peut-être parler d'un rapport parlementaire qui vient de sortir sur la SNCF. Donc, après nous avoir fait le coup de il y a 20 ans de séparer le rail du trafic comme étant la solution miracle à tous les problèmes dans le domaine du rail, voilà qu'aujourd'hui le rapport plutôt revient là-dessus, parle de méthodes opaques de commercialisation, entre autres dans les prix des billets, et puis on évoque à nouveau la dette, 30 milliards d'euros, qui est un problème pour tout le monde, mais pas pour les banquiers qui profitent des remboursements avec les intérêts, bien entendu, quoi.
Voilà, on se souvient que c'est Sarko qui l'avait imposé à marche forcée, en s'appuyant sur « mais c'est l'Europe, la concurrence, il faut le faire, on ne peut pas faire autrement », et toute la droite, surtout la droite financière, applaudissait des deux mains.
Michel, tu avais quelques petites choses à nous dire là, sur cette problématique.
Sur cette problématique, comme vous l'évoquiez, effectivement, là, en 95, on nous prenait la séparation donc, de l'exploitation de l'infrastructure, RFF d'un côté, SNCF, donc Voyage, de l'autre, en nous expliquant que c'est dans la bonne marche, effectivement, la création européenne qui est donc de la mise en plan, la mise en place aussi de l'arrivée de la concurrence, hein, et qu'il fallait séparer les activités. Or, voilà, c'était aussi une opération comptable pour donner les dettes à RFF du groupe et refaire partir sur de beaux rails, si j'ose dire, la SNCF. Bon, maintenant, voilà, près de 20 ans plus tard, on se rend compte que, comme la dette nationale, la dette de RFF a continué de grossir de manière exponentielle, et aujourd'hui, le problème reste entier. Alors, toute la difficulté de nos politiques, et notamment du rapport Bianco-Auxiette, double rapport qui a été remis, c'est comment donc de nouveau réintégrer l'infrastructure dans le groupe sans y paraître, pour ne pas non plus déranger ces messieurs de Bruxelles et avec leur sacro-saint donc liberté de la concurrence. Donc comment cette autorité va-t-elle pouvoir travailler sans pour autant qu'on ait l'impression que la SNCF a la main mise dessus, hein. Et c'est toute la difficulté. Donc on a inventé, si j'ose dire, c'est digne effectivement de travail d'énarque, hein, toute une série d'entités un peu gigognes, dépendantes les unes des autres, le tout chapeauté par l'État, mais pas en tant que l'État qui ferait, comment dirais-je, avancer les choses et qui voudrait bien mettre la main à la pâte, mais en tant qu'un État qui va aussi faire en sorte d'influer sur les politiques. Donc de fait, le pauvre pauvre Guillaume Pépi, directeur de la SNCF, qui justement cherchait une réintégration, ce rapport n'est peut-être pas fait pour lui plaire, parce qu'il pensait de fait chapeauter directement, hein, de nouveau RFF. Donc là, il va se rendre compte qu'il aura plus d'un partenaire et que de fait, c'est plus une forme de recomposition, mais complètement décentralisée, et où il aura perdu énormément de son autonomie. Et de fait, la SNCF va perdre de son autonomie. Mais on pourrait dire que c'est bien de nouveau, mais c'est pas l'État qui va influer. C'est plutôt, on voit bien un peu cette coquille où l'État va favoriser peut-être l'arrivée de concurrence, va s'attaquer certainement, ou c'est aussi fait partie du rapport, va s'attaquer à la réglementation du travail interne, parce que c'est ce qui est en cours actuellement, en vue là aussi de nous harmoniser sur le moins-disant social au niveau européen. Et je pense pas que cette ébauche, hein, on verra ce qu'il en sortira, hein, pour l'instant c'est au stade de rapport qui a été remis à Aero. Je pense pas que ça puisse augmenter donc l'efficacité du groupe SNCF, et surtout que ça puisse améliorer en l'état du mieux donc aux voyageurs.
Voilà, et bien un mot du mariage homo. Donc demain ce sera plié, puisque l'Assemblée nationale devrait en deuxième lecture voter la loi. On a pu voir des manifestations à nouveau, et la droite et le FN la main dans la main à la manif, en attendant de mettre le machin dans le machin, je pense, aux prochaines élections. Et je pense à ça parce que on a vu que parmi les témoins de moralité et de pruderie des anti-homos, il y a une certaine Frigide, là, qui s'est rendue célèbre par une chanson, un tube, qu'on trouve sur Internet aisément. Je sais pas si vous avez pris connaissance des paroles, mais c'est quelque chose dans le registre « Fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois doigts ça rentre pas, avec un doigt c'est trop petit ». Alors, vous voyez à quel niveau ils en sont rendus pour aller chercher des soutiens à leur cause, ces gens-là, quoi. Voilà, donc ça devrait passer. Après, est-ce qu'il y aura encore des traînées de manifs pour continuer les protestations, ou est-ce que, comme dans d'autres pays, tout ça va se banaliser rapidement, quoi?
On rappellera qu'il y a un député rhodanien qui s'est distingué il y a 2-3 jours, hein, c'est Philippe Cochet, qui dans l'adoption de cette loi mariage pour tous voit déjà programmer l'assassinat d'enfants, de bébés.
Là je ne sais pas comment il a fait pour trouver ça, mais enfin...
Philippe Cochet, alors moi je ne sais pas, j'ai regardé, j'ai vu qu'il était député maire de Cuire et Caluire. Et en fait, il a effectivement une carrière, il a commencé à l'UDF, et puis c'est un centriste, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a de le centrisme le plus conservateur au niveau des valeurs traditionnelles. Hein. Si tant est qu'il y ait des progressistes, il y en a quelques-uns chez les centristes, il y en avait du moins. Hein. Mais effectivement, je ne sais pas comment on peut considérer ce personnage, ce Philippe Cochet, mais... je pense qu'il devrait peut-être devenir le héros de l'extrême droite fasciste lyonnaise qui, elle, progresse et prolifère, semble-t-il. On dit qu'aujourd'hui à Lyon, ça devient effectivement un centre très important, mais je pense que dans d'autres lieux des émissions de CANU, cette question a déjà été et sera encore beaucoup développée.
Okay. On va dire un mot des élections en Polynésie, là ça nous laisse un petit peu perplexes. Temaru et Flos donc étaient de nouveau en compétition, c'est Flos qui l'emporte largement. Alors ils sont sympas les Polynésiens, mais voilà un vieux mafieux qui a déjà été condamné à 4 ans avec sursis pour trafic d'influence et autres. Eh bien, il se représente et il emporte les suffrages de la majorité des gens. Bon, Temaru avait aussi ses inconvénients, mais quand même, comment peut-on, c'est comme Berlusconi en Italie, quoi, maintenir et élire, chaque fois qu'il se représente, des vieux roublards de la politique tricheuse, quoi. Enfin, on en a d'autres en métropole.
Oui, Flos avec ses 40%, c'est le premier tour. Hein. Il y a donc un deuxième tour avec deux ou trois candidats. Alors c'est pas alors le problème, c'est que on va dire la gauche les indépendantistes sont très divisés parce que Temaru fait 24, mais un autre candidat, là j'ai pas noté son nom, qui est également sur les mêmes positions, ce qui est plutôt autonomiste indépendantiste, fait 19. C'est-à-dire que si 24 et 19, eh bien, ça fait plus que Flos qui là a pratiquement fait le plein avec ses 40%. Donc la presse le donne gagnant. Effectivement, s'il y a une triangulaire, il est gagnant. Mais si les deux courants autonomistes se mettent d'accord, alors on semble dire ce soir que ça ne sera pas possible, hein, aucun accord n'est possible. Alors bon, une triangulaire, alors. De toute façon, on dit aussi que Flos, dans 2-3 mois, il va être, par un jugement de tribunal attendu, il va être rendu inéligible, donc il devra, de toute façon, il faudra procéder à une nouvelle élection. Mais en attendant, c'est un peu jouer avec le feu de la part des indépendantistes et des autonomistes. Oui.
Un autre sujet, Michel ?
J'avais une information, effectivement, qui est en lien direct avec les conséquences déjà visibles de la très prochaine, c'est une affaire de jour, du vote final sur l'accord national interprofessionnel. Bon, on a vu comment la semaine dernière, au Sénat, la majorité socialiste a bloqué par un vote, a bloqué la discussion. Tous les amendements ont dû être abandonnés et le vote bloqué a produit l'adoption du texte dès la semaine dernière au Sénat. Alors là où effectivement on voit déjà une première application, c'est le débat qui a lieu en ce moment au tribunal de grande instance de Bobigny. Tribunal de grande instance de Bobigny qui, sur plainte des syndicats, et notamment de la CGT, juge un projet de licenciement chez l'entreprise Rodia, qui est devenue belge et qui s'appelle Solvay maintenant, et qui prévoit de licencier un certain nombre de personnes. Donc, alors que Rodia est une entreprise avec un profit très 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 important, même dans la chimie internationale, hein, pas seulement européenne, fait vraiment des chiffres du plus 16% d'une année sur l'autre. Donc, pas de cause, pas de raison financière de licenciement. Alors donc c'est l'argument avancé, on dit bon ben c'est un licenciement boursier. Et la direction dit mais non, mais peut-être vous dites ce que vous voulez, mais les avocats de la direction ont dit mais nulle part il est inscrit dans la loi qu'on n'a pas le droit de licencier au prétexte que la cause du licenciement n'est pas établie. Et voilà, alors c'est déjà à la bande une première application de l'accord national interprofessionnel, une possibilité de licencier sans qu'il soit nécessaire d'en établir la cause. Voilà, c'est le social en deux mots pour dire que eh bien, les plans sociaux, ça va de mal en pis, puisque Petroplus, eh bien, les tribunaux de commerce ne veulent pas des repreneurs. Et le préfet qui doit donc gérer le plan social a trouvé une expression qui va faire fleurir sans doute dans les prochains mois, puisqu'il a dit il vaut faire un plan social du meilleur niveau. Alors ça, c'est une expression nouvelle, hein, qu'on va sans doute entendre plus d'une fois. Tous les préfets et tous les politiques défendant la politique d'austérité vont dire « Mais partout, on va faire des plans sociaux du meilleur niveau. » Ça remplace effectivement les
projets avancés. Il faut qu'on termine ce journal qui sera demain matin. Le journal se termine, donc il sera diffusé demain matin à 8h. Vous pourrez également le réentendre sur Internet. Et ne quittez pas l'antenne. Nous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canut.